Europe 1.
Europe 1.
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1. Une deuxième manche démarre sous l'œil vigilant de ma complice Eva Rock, qui me l'avouait hors antenne.
Oh, je suis excitée aujourd'hui, vous pouvez pas savoir.
Surtout, on ne veut pas savoir. Certainement, la perspective de retrouver en chair et en os le mâle alpha de la rédaction, l'étalon charentais, comme on le surnomme, un journaliste rigoureux, mais surtout un amant héroïque. Les femmes de sa vie peuvent en témoigner, même exténuées après une semaine de taf, Mathieu Charrier ne leur fait jamais le coup de la migraine.
En vrai, je vais vous dire la vérité, je ne m'échappe jamais puisque j'estime que ça fait partie de mon travail de rester jusqu'au bout. À la limite, parfois, je préfère me dire, je vais me laisser m'endormir quelques minutes, vous voyez, pour profiter et récupérer.
Il donne tout pour ses fans et pour ses femmes. Bonjour Mathieu Charrier.
Mais c'est quoi ce bruitage arrière, en plus espèce de matelas qui grince là.
Si
j'avais su, je ne serais même pas revenu dans ce studio aujourd'hui, monsieur Noël.
Oh, nous, ça nous fait plaisir de vous voir.
Bonjour aux auditeurs.
Vous êtes Mathieu, le monsieur cinéma d'Europe 1. On vous sait très inquiet pour cette industrie dont votre job quelque part dépend. Or, ça y est, les tournages vont reprendre sous conditions.
Hein. Oui, et dans quelles conditions? Comment tourner avec une caméra, vous savez, qui doit être quand même le plus loin possible du comédien? Et puis avec une équipe technique évidemment réduite, et puis sans s'embrasser, parce
plus
que si vous avez le Covid, comment
bisous.
On fait? Et puis sans scène de liesse, et puis sans tout ça, bah je vous verrai, on essaie de trouver des solutions.
Ça va être compliqué. Votre rival du jour, Mathieu, mérite non pas que vous la vaniez comme d'habitude, mais que vous lui tendiez au contraire une main secourable. En effet, elle fait partie de ces 27% de Français qui, pour surmonter l'épreuve psychologique du confinement, ont sombré corps et bien dans l'alcool. D'abord un verre de Chablis à l'apéro, puis deux, puis trois, puis la bouteille de Jack Daniel's qui y passe, et on finit à la fenêtre à 20h à dévoiler sa poitrine au voisinage en hurlant.
Ouh, bisous, bisous.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors deux choses peuvent vous faire du bien, une bonne douche froide et une balade en forêt. Beaucoup de Français vont être tentés de s'oxygéner sur les sentiers forestiers dans les jours qui viennent. Mais attention, danger. Pourquoi danger, Anne?
Mais voilà, parce que c'est vrai, les forêts sont de nouveau accessibles depuis hier et 90% des Français aiment la balade en forêt. Mais l'Office national des forêts demande aux promeneurs d'être encore plus respectueux de la nature que d'habitude, parce que les animaux ont pris leurs aises. Je vais vous expliquer.
C'est-à-dire bah, ils sont pas contents de nous voir, les animaux?
Mais non, je crois pas, non. Franchement, surtout vous.
Je pense qu'ils étaient très bien sans nous.
Oui.
Alors, la reprise timide
des
tournages.
Quoique, avec votre petite barbe, là, on dirait un animal. Hein. On pourrait vous confondre avec un ours, quoi. C'est ça que je voulais dire.
Ouais, je crois que nos auditeurs aussi ont bien compris que vous m'avez interrompu pour dire quelque chose qui n'a absolument aucun intérêt. Surtout, je pense que c'est ça que la France peut constater. Alors, la reprise timide des tournages dans le cinéma ou bien les balades en forêt moins timides d'Anne Le Gall, quel sujet vous intéressera le plus? Réponse juste avant 18h. Pour le moment, place au mix. Bob Sinclair n'a qu'à bien se tenir car MC Sébastien Bordenave is in the house.
C'est vrai,
comme on
c'est
disait,
vrai.
Peut-être à la fin des années 90.
Voilà, alors au programme du jour, Mathieu Madénian qui a une pensée pour des artistes un peu particuliers, l'humoriste Walidia qui nous encourage à reprendre le travail à sa façon, vous allez voir, le chanteur Aldebert qui chante Corona Minus au profit de l'association Emmaüs, et puis on va commencer avec Sting qui vous parle depuis ses studios anglais.
Hi everybody, this is Sting. I'm in my home in England and I'm lucky enough to have a recording studio here where I can work every day.
Alors tous les artistes vont galérer les prochains mois, mais aujourd'hui j'aimerais m'adresser à une catégorie d'artistes particulière, ce sont les ventriloques qui vont vraiment, mais alors pour le coup vraiment galérer. Panacloc et Jean-Marc, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, bref, tous ces gens vont galérer parce que monter sur scène avec un masque, ça va un peu gâcher le métier.
Faut générer de la TVA, les gars, faut faire tomber les dividendes des actionnaires. Vous croyez que leur villa à Saint-Barth, elle va se payer toute seule? On prend ses petites guiboles et on va s'entasser dans les transports où on a un coup de frein de galocher son voisin. Et après, on claque bien son salaire dans de la merde, dans les dernières baskets qui ressemblent à une tumeur de l'intestin où là, il faut tous qui se déverrouillent avec un test ADN. Mais faut faire tourner l'oseille, sinon le capitalisme, il se casse la gueule et il y en a, ils vont passer du yacht des Maldives à la Clive 2 du Cap d'Agde. Ils ont pas envie, d'accord? Ils préfèrent crever plutôt que de faire un tour de roue au Luna Park, t'as compris?
Non, d'un petit pangolin, je sais pas ce qui me retient. T'envoyer sur Vénus, le satané virus. Et non d'une chauve-souris, mais quand va-t-il filer d'ici? Déserter notre globe, satané microbe.
Voilà,
C'était Aldebert, j'adore Aldebert.
Vous aimez tout ce qui est un peu pour les enfants en ce moment. Je sens une phase régressive chez vous, Eva.
Oui, mais intelligent.
Oui, oui, bah, ça, évidemment, voilà. Bah, ça, les auditeurs vous connaissent quand même. Ils...
Avec des jeux de mots, tout ça.
Mathieu Charrier, on entend votre
rire gutturale. Abrico Macias, je suis désolée, c'était très bien tout à l'heure.
Vous avez peut-être un commentaire par rapport à ce qu'on vient d'entendre.
Non, pas du tout. C'était très agréable, ce petit mix.
Oui, c'est peut-être très agréable. Nous, ça nous fait plaisir de vous retrouver, mon cher Mathieu. Ça fait longtemps. Eva, vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez vu Mathieu Charrier?
J'étais petite, hein. Je m'en souviens vraiment. Hein.
Mais oui, ça a duré vraiment trop longtemps, le confinement. Il était temps qu'on se retrouve, les amis.
Europe 1.
Pendant les deux mois qu'ont duré le confinement, l'alcoolisme a progressé de 29% dans la société française et de 67% chez les journalistes spécialisés dans l'écologie et résidents à Issy-les-Moulineaux. Les répercussions, on l'imagine, ont été immédiates sur la qualité de leur papier.
Les gagnants ne sont pas les rouleaux de PQ.
Mais Anne Le Gall remonte doucement la pente, grâce notamment à des balades en forêt. Désormais, c'est autorisé, mais attention, il faudrait être très attentif. On vous explique pourquoi dans un instant.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. L'équipée sauvage, Mathieu Noël.
Les 55 jours confinés que nous avons vécu ont été l'occasion pour les chanceux vivant à la campagne de se reconnecter à la nature, de redécouvrir ses couleurs, ses odeurs, ses sons aussi, notamment le chant des oiseaux. Avant, on se disait juste « Tiens, les oiseaux chantent !» Après 55 jours, on est devenu des vrais experts.
Le cri des cormorans le soir, sur les joncs, croix, croix, croix. Sans vouloir vous contrarier, ça c'est plutôt le cri du perroquet bleu du Mato Grosso. Le cri du cormoran, c'est « Croix, croix !»
Eh oui, on est tous des pros. C'est aujourd'hui le retour des promenades en forêt. Mais l'Office national des forêts demande aux promeneurs de ne pas trop déranger les animaux. Pourquoi donc, Anne Le Gall, déjà qu'ils ont été peinards pendant deux mois, les animaux, moi je pense qu'on leur a manqué.
On leur a manqué. Alors la forêt nous a manqué aussi, hein, parce que la marche au milieu des arbres, le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les branches, ça
fait
du bien.
Anne, je vous interromps, je salue déjà la qualité des sons dans votre famille. C'est-à-dire que là, vraiment, on est immergé.
On y est, là.
On est YouTube ambiance forêt, ça marche bien.
Ouais. Et puis si on reste comme ça pendant 30 minutes avec des arbres autour de nous, on se sentira mieux. Et il est prouvé que 30 minutes de balade en forêt, ça a un effet anti-stress. Ça agit sur la pression artérielle et le rythme cardiaque. Voilà, donc après 55 jours de confinement, l'Office national de forêt demande aux promeneurs d'y aller pour le moment sur la pointe des pieds, ceci dit. Alors d'abord en petit groupe de 10 personnes maximum,
pas facile,
ça c'est obligatoire.
Sur la pointe des pieds en forêt, parce qu'il y a des rochers, des cailloux, c'est difficile de marcher
des
sur la pointe
brindilles,
des pieds.
Il vaut
mieux avoir plutôt des bonnes chaussures, hein, je dirais.
Non, c'était pas mal ça.
Je pense qu'on va le garder.
Oui, on va le garder. Vous arrêtez d'interrompre Anne Le Gall. Oh là là, c'est pas possible pour dire des bêtises comme ça en plus.
Pardon, donc, Anne.
Ah. On y va
en
espadrille.
Vous marchez plutôt sur la pointe des pieds quand vous marchez sur un rocher, justement.
Dites donc, Mathieu Charrier, si c'est pour venir en studio dire des bêtises.
C'est beau parce que Mathieu, c'est un ami dans la vie. Il a tenté de voler à ma rescousse. Et c'était plutôt
pour saloper la chronique d'Anne Le Gall.
Je peux continuer ou pas?
Oui, je sais pas, on va se concerter. Elle peut continuer ou pas, Mathieu Charrier?
Allez-y, Anne.
Bon, alors, on y va sur la pointe des pieds, on y va calmement, sans hurler, merci pour les petits chants d'oiseaux, là, et on reste bien sur les chantiers, sur les sentiers. Pourquoi? Parce que déjà, habituellement, cette période du printemps est essentielle pour la faune dans les forêts. C'est le moment des naissances, c'est le moment où les jeunes vont apprendre à s'envoler, à courir, à chasser. Donc ce sont des moments d'apprentissage très importants pour toutes les espèces. Et là, eh bien, après 55 jours de confinement, il va falloir se montrer encore plus respectueux de la faune. Car pour Pierre-Édouard Guilin, directeur de l'agence de l'Office national des forêts d'Île-de-France et de l'Est, c'est comme si les visiteurs faisaient irruption dans une nurserie.
Dans ces forêts qui accueillent beaucoup de visiteurs, les espèces animales, et notamment les oiseaux, ont profité de cette absence pour aller s'installer et faire leur nid. Et il ne faut pas oublier que beaucoup d'oiseaux font leur nid non pas dans les arbres, comme on en a souvent l'image, mais aussi dans le sol. Et donc le risque, c'est qu'effectivement, là où nous ne passions plus parce que nous étions confinés, eh bien tout simplement, des oiseaux aient fait leur nid, qu'on ait toute une petite famille qui se soit installée et qu'on vienne déranger par notre piétinement, par le bruit que nous faisons, par nos activités.
Mais ça va donner envie aux gens d'aller voir les petits oiseaux, non?
Et puis surtout, de voir tous les petits animaux, tout ça.
Mais oui.
C'est mignon, les bébés animaux.
En fait, c'est
mignon.
Ouais.
C'est mignon.
On n'aurait pas dû le raconter. En vrai.
Donc, allez, coupons la chronique.
Le conseil. Le conseil, c'est de ne pas quitter les sentiers, de tenir les chiens en laisse pour éviter qu'ils ne viennent déranger justement un animal qui se serait installé dans un endroit inhabituel. Et la consigne vaut aussi d'ailleurs pour les promeneurs sur les plages, parce que certains oiseaux pondent leurs œufs directement sur le sable, et donc en l'absence de promeneurs, peut-être qu'il y a eu des pontes sur la plage ou en bordure des sentiers, et c'est pour ça que les gardes du littoral recommandent aussi de bien regarder là où on met les pieds, parce que ces œufs ont la même couleur que le sable ou les galets. Alors ça, c'est une belle trouvaille de la nature pour que les petits échappent aux prédateurs, mais le problème, c'est que nous les humains, eh ben, on voit pas toujours ces œufs non plus, d'où l'importance de regarder où on marche et de respecter certains enclos.
Surtout quand Eva arrive bourrée à la plage après quelques sprints, ouais, ça veut dire qu'elle ne voit pas les œufs, ne distingue pas les œufs du sable. Alors, est-ce que le confinement a pu favoriser les naissances en forêt ou dans les zones naturelles?
Alors l'Agence nationale des forêts et l'Agence de la biodiversité ont entamé des études pour le savoir. Comme il n'y a eu que 2 mois de confinement, le changement ne sera sans doute pas majeur, m'a-t-on expliqué, mais il y a quand même peut-être un meilleur développement et une meilleure croissance des animaux qui sont nés pendant le confinement, parce qu'ils ont pu justement vivre leurs premiers apprentissages tranquillement. Il faudra en fait attendre l'année prochaine pour des études de long terme. Et en attendant, l'Office national des forêts rappelle que les forêts françaises accueillent chaque année 700 millions de visiteurs. 60% les fréquentent en marchant ou en courant. 40% circulent à vélo ou en VTT. Donc dans les forêts aussi, il faut appliquer les gestes barrières face au coronavirus. Donc quand un groupe de promeneurs en croise un autre, eh bien on n'oublie pas la distanciation sociale.
C'est plus facile dans la forêt que dans le couloir du bureau quand même.
Mais ne ramenez pas toujours tout à vous, Eva.
Ah oui, ça
très belle chronique. Néanmoins, ouais, je crois que Mathieu Charrier a une réclamation à apporter.
Non, sur Internet, sur Twitter, pour voter, il était marqué Baby Boom en forêt. Donc évidemment, les auditeurs vont se ruer sur cette appellation, ce qui n'était pas du tout le sujet de la chronique. Mais c'est pas grave.
Mais si, Baby Boom en forêt, il y a plein d'oiseaux qui sont nés.
Vous avez dit qu'on ne pouvait pas répondre.
Vous êtes d'une mauvaise foi.
Vous avez dit qu'on ne pouvait pas répondre.
Mathieu Charrier.
Voilà. Merci quand même, ma chère Anne Le Gall. Moi, je trouve que c'était une très belle chronique. Bon, néanmoins, pour mettre vraiment toutes les chances de votre côté, allez, 3 secondes d'Erita Mitsuko.
Je dis oui.
Pas mal. Pas mal. Big bisou par Benjamin Biolay, mais pas mal.
Europe 1.
Beaucoup d'entre nous ont repris hier le chemin du boulot, tremblant derrière nos petits masques, calculant à chaque instant la distance de sécurité qui nous séparait d'un collègue. Après 2 mois passés à flipper devant les chaînes infos, il faut l'admettre, on est tous un peu tendus. Au moindre contact involontaire avec un collègue qui vous effleure par mégarde à la machine à café, vous exclamez
« Lâchez-moi, sale nazi !»
Détendez-vous, faites le vide dans votre tête, au moins ce soir, grâce au conseil télé écran des Varocs. À tout de suite.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Quand vient le soir, on pourrait croire que dans le couple, l'heure est à l'apaisement, au consensus. Il n'en est rien. Chaque soir, on perd en moyenne 17 minutes à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix. C'est évidemment une moyenne. Certains peuvent se disputer beaucoup plus longtemps. Chez certains couples, ça peut au contraire aller beaucoup plus vite.
Si tu veux mon avis,
ton avis, quel avis? Tu as un avis?
Mais Robert, ce que je te demande, c'est de partager le mien. Sinon, tout le reste, c'est des paroles et de l'énergie perdue. Allez, tais-toi un peu.
Eva, vous êtes plus qu'une journaliste, pacificatrice. Chaque soir, vous aidez les couples à se mettre d'accord devant l'écran.
Et ben, je vous propose de commencer avec un film grand public familial qui est diffusé ce soir à 21h05 sur Citer et qui est intitulé « Dans l'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney ». Alors vous avez quasiment tout le pitch dans le titre, à savoir la promesse de Walt Disney faite à ses filles, celle d'adapter en film leur livre préféré, Mary Poppins. Et puis de l'autre côté, l'auteur du livre, Pamela Lyndon Travers, qui refuse, elle, cette adaptation. Pendant 20 ans, elle a dit non avant d'être acculée financièrement, et finalement elle va commencer à accepter l'idée de cette adaptation et donc l'idée de participer aussi à ce projet. Mais alors dès qu'elle arrive et dès qu'on lui présente l'équipe, on sent que c'est pas gagné du tout.
Je vous présente Dick et Bob Sherman, musique et paroles, messieurs, la seule et unique Madame P.L. Travers, créatrice de notre bien-aimée Mary
Poppins.
C'est évident.
Mary Poppins, ne jamais se contenter de Mary. Ravi de faire votre connaissance.
Bonjour.
Ça a malheureusement une brève rencontre.
Mais pourquoi ça?
Parce que ces livres ne se prêtent pas à la faribole, au flonflon et au calembre d'aine. Non, ce ne sera pas une comédie musicale.
Elle était très dure, elle était très dure. Alors le film revient plus précisément sur les 15 jours de travail et de confrontation, surtout entre l'auteur et Walt Disney qui va tout tenter pour l'amadouer. Pamela, elle déteste toutes les propositions. Elle n'a pas envie de voir des pingouins animés, elle refuse les chansons, elle dit non à tout.
Mais attendez, stop.
Oui.
Quel est le, je n'ai pas lu le livre de Mary Poppins, mais cet univers féerique, ce n'est pas dans le livre
par exemple. Non, c'était pas à ce point-là
en fait. Mais c'est quoi Mary Poppins, le livre? Ça n'a rien à voir. C'est vraiment l'adaptation cinématographique est très loin de ce qu'elle dit.
Non, il y avait un côté féerique, mais par exemple, elle ne voulait pas que ça devienne une comédie musicale, ce qui n'était pas dans le bouquin, effectivement. Oui, voilà. Parce qu'en fait, elle avait fait ce livre en rapport aussi avec son père, avec la relation qu'elle avait avec son père, qui est racontée d'ailleurs dans le film. Et elle avait l'impression qu'on n'était pas fidèle en fait à ce qu'elle avait voulu exprimer. Donc elle refusait vraiment toutes les propositions de Walt Disney. Bon, finalement, d'accord, le film a bien eu lieu. Alors, je vais être honnête, c'est pas le film du siècle, hein, dans l'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney, mais d'abord, j'aime tellement Mary Poppins que l'idée de découvrir en fait les coulisses de la création du film m'a séduite. Et puis, le film est surtout un numéro d'acteur. Emma Thompson face à Tom Hanks. Vraiment, tous les deux excellent dans ce duo qui repose sur une forme de détestation commune, mais qui tourne véritablement au comique, on dirait vous et moi, par exemple. Et pour la seule présence de ces deux stars, eh bien, vous pouvez regarder dans l'ombre de Marie, c'est ce soir sur 6h, c'est la chaîne 22, Mathieu. Si vous
tu dis quoi ?
Elle se prend donc pour Emma Thompson.
Oui, on peut effectivement conclure ainsi.
Ouais.
Et si on a le temps de regarder une série parce qu'on est encore à la maison, par exemple ?
Alors, je vous recommande d'aller faire un tour sur OCS pour découvrir les deux saisons de Illuminé. Illuminé, c'est l'histoire d'Amy. Elle est cadre dans une grande entreprise d'agroalimentaire. On va la découvrir au tout début du premier épisode en train d'insulter son supérieur, bon, avec qui elle a eu une aventure, une véritable crise de nerfs devant l'ascenseur.
Je vais te défoncer la tête, Tonton ! Je vais te massacrer ! Je te tuerai, espèce d'enfoiré !
Et quelques secondes.
Et là, je vous ai déjà dit de ne pas dévoiler nos conversations privées
à
l'antenne.
Attendez, justement, quelques secondes plus tard, c'est une autre Amy que vous allez découvrir.
Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut sortir de l'enfer pour aller vers la lumière. Vous pouvez prendre conscience de votre vérité intérieure. Et quand vous y parvenez, le monde vous offre soudain une multitude de possibilités.
Vous voyez ce contraste entre cette petite voix douce contre les cris stridents, voilà.
C'est votre biopic, quoi.
C'est un peu mon biopic. Bah ouais, parce qu'après son pétage de plomb, en fait, Amy, elle est partie quelques semaines à Hawaï dans un centre New Age avec yoga, feu de camp et beaucoup d'amour. Et elle en revient totalement transformée. Elle est décidée à changer le monde et son entreprise. Mais on sent que Amy, elle est un peu sur le fil du rasoir. Elle est à la fois exaspérante, envahissante. On a parfois envie de la secouer, de lui dire mais tais-toi, bon Dieu, tais-toi.
J'ai pas de collègue. Ouais, ça, et en même temps, je vois pas, j'ai beau chercher.
Ouais, si, regardez, écoutez bien, parce qu'en même temps, elle est terriblement attachante et émouvante, vous voyez pas ? Alors en fait, si Illuminé débute vraiment comme une comédie, comme vous avez pu l'entendre avec l'extrait, en fait, la série elle va se métamorphoser autant que son héroïne, c'est-à-dire que le personnage est assez complexe. C'est l'histoire d'une femme qui va quand même chercher sa place dans la société, qui souffre de l'injustice, qui veut vivre pleinement et qui en fait nous interroge aussi sur des questions fondamentales et d'actualité, en l'occurrence, comment être heureux dans cette société capitaliste ? Ça veut dire quoi être quelqu'un de normal ? Qui sont les plus fous dans notre environnement? Voilà, c'est une série qui est très réussie, qui est créée et portée par Laura Dern, dont les prestations, vous vous souvenez peut-être, dans Marriage Story, dont on avait parlé, tout à voir sur Netflix, ou encore Big Little Lies, que j'adore, et sur OCS aussi.
Big Little Lies, voilà, avec Nicole Kidman.
Voilà, exactement.
Et Reese Witherspoon.
Exactement. Et Laura Dern, moi j'adore cette actrice. Découvrez-la vraiment dans Illuminé sur OCS. Moi j'ai adoré cette série.
Et vous êtes vous-même illuminé et vous nous illuminez chaque jour avec vos conseils. Merci beaucoup Eva Rock.
Europe 1.
À suivre, ça lui a fait tout drôle d'être de retour en studio, d'autant plus drôle qu'il est à côté d'Eva, à qui il est d'ailleurs en train de faire passer un message le plus diplomatiquement possible.
T'es pas obligé de te brosser les dents non plus, mais enfin c'est quand même mieux quoi.
Mathieu Charrier, notre expert cinéma, nous explique comment les tournages s'apprêtent à reprendre doucement et sous conditions. Juste après Olivia Ruiz, elle panique sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Derrière.
sel.
C'était Olivia Ruiz sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Cajoler vos zygomatiques sans nuire à vos cerveaux, c'est la mission chaque après-midi de l'équipe est sauvage. 2 heures de bonne humeur mais également de découverte grâce à la compétence incomparable de nos journalistes qui défilent au micro. Un seul sera élu chroniqueur du jour. Peut-être Mathieu Charrier, notre ultime concurrent du jour, un journaliste qui est vraiment un formidable conteur, qui sait installer une ambiance, un rythme dans ses chroniques. Alors évidemment, il faut qu'il soit un minimum aidé. Si Eva s'en mêle, ça peut quelque peu casser le rythme de son papier, comme mardi dernier.
Alors par exemple, les amis, si je vous demande, vous, votre souvenir de cinéma le plus insolite, vous me répondez quoi ?
J'en ai aucune idée. Hein. Je passe là parce que non, ça me revient pas. Ouais.
La réponse d'Olivier Nakache, Sandrine Chiberlin et Alain Chabat. Écoutez.
Ah si, je sais.
Après.
Oui, après. C'est soit sur le moment, soit après. Mais pas.
Faut quand même préciser qu'elle reçoit les textes en amont. Donc elle avait vu que j'allais lui demander ça.
Mais non, mais alors là, je vais vous expliquer. Ouais. Je fais exprès d'avoir
de pas les lire. Spontané.
Voilà. Un peu de fraîcheur à l'antenne.
Pas trop de spontanéité. Mieux vaut préparer à l'avance. Mathieu Charrier, vous nous parlez du cinéma, de l'industrie cinématographique qui se réveille doucement.
Et oui, la reprise notamment des tournages, hein, puisqu'Emmanuel Macron l'a annoncé la semaine dernière. Les tournages vont reprendre. D'ailleurs, dans la foulée, la ville de Paris a de nouveau autorisé les tournages dans la capitale. Donc, ça y est, je vous parlais notamment il y a quelques semaines, vous savez, des décors figés dans l'occupation à Montmartre.
Ah oui, c'est vrai.
Monsieur Affran.
Ouais.
Eh bien, ça y est, ça va donc pouvoir reprendre.
Alors, à vous écouter, c'est reparti comme en 40, mais il n'y a pas de mesure spécifique.
Il y avait une blague dans l'assiette relance.
Oui, mais si vous voulez, il y a un moment quand même, j'ai quand même une petite image, je ne peux pas dire absolument n'importe quoi. Donc je n'ai pas mis, effectivement, c'était écrit c'est reparti comme en 40, entre parenthèses, ha ha ha.
Et Abrico Macias, vous l'avez assumé.
J'ai fait l'impasse sur le ha ha ha. Mais il n'y a pas des mesures spécifiques.
Alors,
quand même.
Si, bien sûr, beaucoup, qui en réalité rendent cette reprise des tournages très très difficile. Déjà, bon, tout le monde masqué, gel hydroalcoolique aux quatre coins du plateau, ça, ok, il n'y a pas trop de soucis. Mais ensuite, pas plus de 50 personnes sur le tournage. Alors, pour un tournage de taille moyenne, ça va. Mais pour les gros tournages, c'est mort, parce qu'il faut le savoir qu'en général, vous savez, il y a 150 personnes sur certains tournages. Et c'est comme sur un chantier, c'est-à-dire que le plombier ne peut pas faire le travail de l'électricien. Donc là, c'est pareil, c'est une organisation militaire. Donc d'abord, problème pour certains tournages concernant le nombre de personnes, de techniciens. Et puis ensuite, vous savez, il faut notamment garder 2 mètres de distance. Comment vous filmez quelqu'un en gros plan, en étant à 2 mètres de lui.
Vous changez de focale.
C'est hyper compliqué.
Je prenais un gros zoom.
C'est très intéressant. Vous changez de focale, mais j'en discutais avec un réalisateur. Vous savez qu'au cinéma, chaque plan est pesé, chaque plan est réfléchi, et une focale.
Ça dépend des réalisateurs.
Mais pour les bons films.
Par exemple, dans Max Pécasse, on se calme en bois face. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réflexion qui est présidée à chaque plan. Mais bon.
En tout cas, si vous réfléchissez à chaque plan, eh bien évidemment, vous n'utilisez pas la même focale, le même zoom pour parler en langage plus courant. Et donc, comment vous faites si vous avez prévu de filmer quelqu'un en vrai gros plan et que vous devez être à 2 mètres de lui, eh ben c'est impossible. Donc ça va faire travailler et sans doute faire évoluer beaucoup de scripts.
Et donc ça a des conséquences sur la mise en scène.
Eh ben oui, impossible aussi de tourner des scènes de groupe, exemple, puisque vous ne pouvez pas réunir plus d'une dizaine de personnes. Comment vous faites ? Prenez Envole-moi de Christophe Baratier, porté notamment par Gérard Lanvin. Le tournage était en cours, il devait tourner au Parc des Princes. C'est un peu embêtant, il doit y avoir des centaines de figurants. Évidemment, c'est plus possible, il faut revoir le scénario. Ça va d'ailleurs être amusant de voir dans quelques semaines ou dans quelques mois les films qui vont sortir et où il n'y aura plus, vous savez, de scènes de groupe parce que ce sera forcément des gens à 2 mètres de distance. Et puis, Mathieu Eva, moi j'ai écrit mon scénario, vous avez les deux rôles principaux, c'est l'histoire d'un amour.
Je sais que ça va plus. Impossible.
Qui, finalement, se réalise à la toute fin. Ma scène clé qui doit faire pleurer les gens dans la salle, c'est le baiser final.
Ah merde, on peut pas le faire. Ah, c'est con, Eva. C'est con.
Je suis trop déçue.
S'embrasser en respectant les gestes barrières.
Mais
en vrai, c'est une vraie question. Alors, je passe le coup de fil à des producteurs. Il y en a certains qui m'ont dit on y a réfléchi, on va proposer aux acteurs de les tester. C'est-à-dire de tester s'ils ont le Covid.
Comme ça, après, ils vont se galocher comme des porcs, même ensuite.
Mais le problème, c'est que vous savez que le test, il est valable en instant T. C'est-à-dire que si vous testez Eva, qu'elle est négative, mais que 3 jours après, il y a la scène du baiser, et qu'entre-temps, elle a chopé le Covid, et c'est foutu. Donc, en réalité, C'est un risque qu'il va falloir accepter de prendre et c'est probablement
les assurances,
les acteurs qui vont accepter ou non de le prendre.
Et si on découvre que quelqu'un est contaminé sur un tournage, comment on fait ? On arrête tout ?
Eh bien, en théorie, oui, parce qu'il va falloir tester tout le monde. Si vous avez un technicien ou un chef opérateur ou un acteur qui est positif avec, vous savez, la règle d'aujourd'hui qui est de remonter les fameux cas contacts, c'est-à-dire les gens qui ont été en contact avec lui, en théorie, vous devez tout arrêter et tester tout le plateau, ce qui est évidemment très compliqué. Et vous parliez, Eva, des assurances. C'est tout le problème aujourd'hui pour la reprise des tournages, parce que pour faire un tournage, vous devez être assuré, c'est obligatoire. Sauf que vous imaginez bien que les assurances, elles ne sont pas du tout d'accord pour risquer de remettre le moindre centime sur un tournage aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que l'État a dit on va mettre un fonds de soutien de 50 millions d'euros avec les régions, etc., qui va permettre d'assurer les tournages, et les assurances doivent y participer. Mais ce n'est pas du tout gagné. Et je sais qu'il y a des gens, j'en discutais avec des amis, ils disaient « Oh, pas de tournage, c'est pas grave, on n'aura pas de film pendant quelques semaines ou quelques mois ». Mais c'est faux, il faut se rendre compte que c'est une industrie. Il faut savoir que la culture, ça représente beaucoup plus dans le PIB français que l'industrie automobile, par exemple, dont on parle beaucoup. Donc des tournages qui s'arrêtent, que ce soit des tournages de télé
ou de cinéma, qu'on aime le cinéma ou pas,
c'est une catastrophe économique, c'est en chaîne, c'est non seulement pour les salles, c'est pour les techniciens, c'est pour tous les emplois directs et indirects, c'est des dizaines de milliers d'emplois. Donc c'est pas juste. Vous savez, il y a aussi des fois ce discours un peu populiste. Ah ouais, bah c'est pas grave, les acteurs, avec tout ce qu'ils gagnent, ils vont bien s'arrêter un petit peu. Non, c'est pas juste la tête d'affiche qui va devoir s'arrêter et qui, effectivement, a peut-être un peu d'argent de côté. C'est tout ce qu'il y a derrière et c'est toute une chaîne économique qui est en danger. Donc, soutenez les tournages, soutenez les cinémas. Et s'il vous plaît, si vous regardez des films sur votre télé, louez-les en VOD, ne piratez pas, ça n'a l'air de rien, mais c'est une manière aussi d'aider. Quand on applaudit les soignants tous les soirs, eh ben, payons, ça coûte quelques euros et ça peut vraiment aider l'industrie du cinéma qui va pas bien.
Mobilisez-vous, c'était le
raison,
message
Mathieu
de Mathieu Charrier.
Merci.
Très belle chronique Mathieu, et sans révéler hein, les votes sur Twitter, vous qui gardez toujours un œil dessus, une petite indication de votre classement aujourd'hui. Merci pour votre discrétion.
Europe 1.
Toujours pas d'invité en studio, mesures sanitaires obligent, l'occasion de découvrir ou redécouvrir les interviews les plus marquantes de l'équipée sauvage. Acteurs, chanteuses, écrivains, réalisateurs, les plus grands se sont bousculés à notre micro, pour la qualité de l'émission peut-être, mais surtout je crois pour le plaisir de rencontrer un type aussi sympathique que moi. Toujours proche de mes équipes, toujours clair dans mes consignes.
Voilà.
Un vrai bonheur pour tous ceux qui bossent avec
moi.
Bien sûr. Ok, ça marche. Je te dis... Ah non. Bah si, clac, là on a de la musique. Et moi... Mais oui. Non, les séries, ils ont été munis. Pourquoi je dis... Ben oui. Ben non. Il faut que j'engueule la régie. Ils ne comprennent pas ce que je dis. Non, ouais, ils sont vraiment nuls en régie. A tout de suite avec Cédric Clapiche.
Europe 1. 16h, 18h. L'équipée sauvage. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Au CFJ, le prestigieux centre de formation des journalistes, il y a désormais une salle à mon nom. Elle est dédiée au cours sur l'art de l'interview. Art délicat, dans lequel j'excelle avec une insolence qui frise parfois l'indécence. Je me contenterai ici de rappeler modestement que je suis l'actuel détenteur du record du monde de la question la plus longue, aboutissant à la réponse la plus courte de l'histoire de la radio. Ils vivent dans Paris, sont un peu dépressifs, hein, on peut le dire. Lui peine à faire une rencontre amoureuse. Elle multiplie, au contraire, les rencontres foireuses sur les applis. C'est une belle histoire, mais c'est surtout, comme toujours avec vous, l'analyse d'une époque.
Oui.
Et voilà. Oui, le 9 septembre dernier, nous recevions le cinéaste Cédric Clapiche. Notre invité n'est autre que mon idole absolue, Cédric Clapiche est avec nous. Bonjour Cédric Clapiche.
Bonjour.
Des applaudissements quand il n'y a pas de public, c'est dire si l'invité nous plaît. Alors afin de ne pas sombrer d'entrée de jeu dans une forme de flagornerie qui pourrait vite devenir gênante, sachant que je suis à peu près dans le même état nerveux que mon petit-neveu quand Kylian Mbappé lui a dédicacé son ballon, je vais tenter de me raisonner. Après tout, qu'a fait de si notable Cédric Clapiche? Bon, alors oui, à part le péril jeune, chacun cherche son chat, un air de famille... Oui, il a révélé Romain Duris, c'est vrai, mais bon, Romain Duris n'a pas fait une grande carrière après. Il a fait l'auberge espagnole, ça c'est vrai, bon, les poupées russes, casse-tête chinois. Oui, non, mais il a complètement raté le tournant des séries. Ah, c'est lui qui a fait la saison 1 de 10%, la meilleure? Ok, je ferme ma gueule alors, ok. C'est difficile de relativiser votre carrière quand même, Cédric Clapiche. C'est difficile. Difficile aussi peut-être de gérer l'attente qui repose sur votre nom à chaque sortie de film, Cédric Clapiche. Il y a une pression supplémentaire quand on a un nom comme le vôtre.
Pression pour qui?
Pour
oui, parce que la sortie d'un film, c'est toujours un moment, enfin, c'est surtout 2 ans de ma vie, c'est-à-dire que c'est 2 ans de travail, et donc il y a des étapes de travail qui font que le jour de la sortie, on a envie que les gens aillent voir le film. C'est vraiment un enjeu fort. En même temps, disons que là, c'est mon 13e long métrage, Et donc du coup, on relativise un peu, disons. Et donc j'essaye de rester zen.
Oui, vous avez l'air assez zen. On va parler de Deux Mois, ce nouveau film que vous décrivez comme un conte urbain. Vous nous les plaît, Eva. Après le moment de tousser, Deux Mois.
M-O-I.
M-O-I, c'est l'astuce. L'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme. Ils vivent dans Paris, ils sont un peu dépressifs, hein, on peut le dire. Lui peine à faire une rencontre amoureuse. Elle multiplie, au contraire, les rencontres foireuses sur les applis. C'est une belle histoire, mais c'est surtout, comme toujours avec vous, l'analyse d'une époque.
Oui.
Oui, merci Cédric Lafiche. Non mais vous dites, aujourd'hui pour trouver l'amour, les gens vont aller sur des applications permettant des rencontres. On est dans une époque très connectée et bizarrement, cette époque fabrique le contraire du lien, ça fabrique de la distance et du froid. C'est vraiment le paradoxe de notre époque aujourd'hui.
Oui, je trouve. C'est vrai que c'est étrange parce que ces applis existent pour qu'il y ait des rencontres. Et moi, j'avoue que je trouve ça génial. Moi, quand j'avais 15 ans, j'aurais adoré avoir Facebook et demander en soirée « C'est quoi ton Facebook ?» Et en même temps, il y a cette distance, il y a la virtualité qui remplace beaucoup le concret, la réalité. Et du coup, ça fabrique effectivement du froid et de la distance.
Mathieu Chalet, votre avis sur Tinder ?
Dans quelle mesure vous êtes-vous reconnu dans le personnage d'Anna Girardot qui enchaîne les rencontres foireuses sur des applis de rencontres ?
Je vous en prie, Mathieu Chalet.
Il n'y a pas eu une époque de votre vie.
Il y a peut-être eu une époque de ma vie, mais ça n'intéresse pas nos
auditeurs. Vous vouliez qu'il vous donne un point là, à la fin de l'émission ?
N'oubliez pas que j'ai un point moi aussi, Mathieu Chalet. Mais justement, je pense que Cédric Lapiche, c'est peut-être aussi la facilité avec laquelle on peut faire des rencontres aujourd'hui qui fait qu'on se dit toujours qu'on peut trouver mieux. D'où cet enchaînement.
C'est ça. C'est-à-dire la facilité fabrique de la difficulté, étrangement. Et donc, c'est vraiment une époque très paradoxale parce que cette espèce de côté supermarché où le choix est illimité fabrique de l'angoisse en fait.
Est-ce que vous-même, Cédric Lapiche, vous êtes quelqu'un de très connecté, voire accro ?
Oui, moi je suis très Instagram, j'adore Instagram et donc je peux dire que je suis accro à ça. Et il y a vraiment le même problème, je dirais, quand on aime un réseau social, c'est le problème de l'alcool. C'est que c'est bon, mais trop, c'est moins bon. Donc il y a vraiment le problème de l'addiction.
Ouais. Parce que c'est extrêmement chronophage. Je pense qu'on est tous là sur les réseaux sociaux, c'est que c'est marrant, mais Eva, vous passez beaucoup de temps. Ah non, mais moi, je me...
On est d'accord.
Ah oui, moi,
Mathieu,
je fais
par exemple, mais pas du tout branché
oui, mais
réseaux
ça,
sociaux.
C'est juste parce que je suis ringard, ça n'a rien à voir avec l'addiction. Alors, Cédric Lapiche, ensemble, on parle de Deux Mois, votre nouveau film. Et comme avec vous, on ne sait jamais. Hein, tantôt on rit, tantôt on pleure. Là, à quoi les spectateurs doivent s'attendre ? C'est comédie dramatique ? Comment vous décririez le film ?
Moi, j'aime pas donner une étiquette. J'aime bien le fait que, comme vous dites, c'est hybride. Hein, c'est comme votre ouais. Émission. Et donc oui, j'aime bien faire rire et pleurer. Donc je pense que dans le film, c'est assez clair que les gens rient et pleurent.
Et vous m'avez énervé, moi, parce qu'il y a quand même un petit suspense jusqu'à la fin du film. On peut le dire, ça. J'ai pas dévoilé grand-chose.
Mais un peu quand même.
Non, j'ai dit qu'il fallait regarder le film jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute.
Faut pas sortir de la salle.
Faut pas sortir de la salle, vous allez regretter.
C'est vraiment un bon conseil.
Ouais, c'est pas mal, parce qu'on y pense pas.
Franchement, il y a des films où vous avez vraiment envie de partir avant la fin, on est d'accord.
Il y a une phrase de Boris Vian géniale qui dit « Le film était tellement mauvais que les gens faisaient la queue pour sortir. » Et j'adore cette phrase.
Alors, vos deux personnages principaux incarnés par François Civil et Anna Girardot sont tous les deux, on l'a dit, en phase de dépression. C'est facile de pitcher, comme on dit, un film où les deux personnages principaux, au début du film en tout cas, sont dépressifs, quand c'est quand même une comédie romantique où on espère sourire.
Ben, forcément, quand vous dites ça aux financeurs du film, ça leur fait pas plaisir.
Il vaut mieux s'appeler Cédric Lapiche dans ces cas-là.
Ouais, non, et puis par contre, ils ont lu le scénario, ils ont compris. C'est-à-dire que je pense que c'est le cas d'ailleurs des spectateurs qui au début sont surpris, ça démarre un peu lentement avec des gens qui vont pas bien. Et puis on espère qu'ils aillent mieux dans le courant du film. Donc c'est vraiment un des principes du film.
Sur les réseaux sociaux, vous avez vous-même des enfants. Est-ce que vous les... Ils sont grands maintenant.
Ouais.
Comment vous gérez leur relation aux réseaux sociaux ? Vous les conseillez ? Vous leur dites doucement ou de toute façon, vous avez lâché prise parce qu'ils font ce qu'ils veulent ?
J'ai lâché prise.
Vous avez lâché
prise. C'est-à-dire qu'il y a l'époque, j'ai 14 ans et je suis tout le temps et donc à table, vous êtes en train de dire lâche ton téléphone, etc. Donc c'est une bataille. Et puis il y a un moment où effectivement, de toute façon... vous n'êtes pas 24 heures sur 24 avec eux et oui. Vous lâchez prise.
Vous dites également donc, sur cette addiction aux réseaux sociaux, vous dites « à force d'être en connexion avec le monde, on est en connexion avec rien, on perd la nécessité réelle. Moi, je positive le fait d'avoir un contact réel et humain. Avec Deux Mois, je voulais faire la publicité du réel. » Je trouve que moi qui ai eu la chance de voir le film, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous, c'est Cédric Lapiche qui s'intéresse au monde actuel avec les réseaux sociaux, avec les applications. mais qu'il dépasse en même temps.
Je suis d'accord avec ce que j'ai dit, en tout cas. Non, c'est vrai.
Mais on ne peut pas voter pour moi, c'est con. Pourquoi je ne suis pas en compétition, moi, d'ailleurs ?
Non, mais c'est vrai. Oui, faire la publicité du réel, ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est vrai qu'on est beaucoup sur la notion du clic, quoi. C'est-à-dire qu'on clique sur des choses et on est beaucoup sur la notion de fantasme ou de désir. Donc, quand on commande une pizza ou un jus de pamplemousse, c'est plus facile, mais c'est vrai que quand il s'agit d'un film ou quand il s'agit d'une personne, ça devient plus compliqué parce qu'on ne clique pas sur des films ou des personnes.
Europe 1.
2 mois que le Carrefour de Chablis est fermé. 2 mois de torture pour Olivier Pouls, notre expert gastronomique, qui forcément était un peu excité hier au moment de la réouverture.
Monsieur, lâchez ce ton rouge, ok?
Ok.
On touchera le poisson, c'est un bon poissonnet. Si vous voulez être servi, vous demandez à la vendeuse, elle se fera un plaisir de s'occuper de vous.
Oh, le beau fromageon.
Non monsieur, par les doigts dans le fromage. Alors vous avez mis le doigt dedans, alors vous le prenez et vous allez payer à la caisse. Ah. Mais on ne mange pas avant de payer à la caisse, ok?
Oui, Olivier Pouls était un petit peu nerveux avec tous ces magasins fermés pendant le confinement. Il arrive avec Délices in Extremis dédiés à ceux d'entre vous qui ont repris le chemin du boulot. Comment se concocter un panier repas qui déchire? Ce sera juste après une nouveauté. Say No, voici Doja Cat sur Europe 1. C'est No, c'était Doja Cat sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Toutes les études le prouvent, la solitude prolongée affecte le cerveau.
Ah bah, le c'est désir, pour ça que j'ai plus de cerveau, d'accord.
C'est, je comprends mieux. C'est en partie l'explication.
D'accord.
Le désir de serrer quelqu'un. Le désir de serrer quelqu'un dans ses bras, n'importe qui, de le palper, de le tâter, devient obsédant. C'est ce qui arrive à ce pauvre Olivier Pouls, confiné à la campagne, seul depuis près de 60 jours. 60 jours sans toucher une femme. Forcément, il commence à faire des lapsus.
Alors, il me tâte. Non, il me tarde.
Oui, il vous tarde de nous revoir, Olivier. Enfin, j'espère, en tout cas, du moins. Comment ça va, mon petit Pouls ?
Ben, ça va bien, mais il me tarde de vous tâter aussi.
Ah, oui, d'accord. Non, mais ça, oui.
Okay,
oui, bien
alors,
sûr, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on prépare comme menu repas pour demain ? Pour notre cantine qui n'existe plus.
Une délicieuse petite salade spéciale pour vous, Eva. Il n'y a pas de fromage dedans.
Ah, ça, c'est
façon taboulée. Alors, voilà pour la liste des courses que vous allez vous empresser d'aller chercher. Il vous faut un petit peu de semoule, de la semoule moyenne, à l'équivalent d'un verre à peu près. Il vous faut simplement de l'eau et un jus d'orange. Il vous faut un petit peu d'huile de noisette, une belle poignée d'herbes, ce que vous allez trouver. Des asperges, c'est encore la saison, vous m'en prenez une ou deux, alors blanche ou verte selon votre goût. Un petit blanc de volaille, et puis voilà.
C'est tout pour les ingrédients.
C'est tout pour les ingrédients. Alors, l'idée, c'est donc de préparer ce petit taboulé, on va dire ça comme ça, de manière assez classique. Donc, vous allez mettre l'eau chaude avec le jus d'orange dans la semoule, qui va gonfler, qui va donc se gorger de ces arômes d'orange, avec ce petit côté un peu acidulé, un petit peu amer aussi, qui est très intéressant. Vous allez couper vos asperges en tronçons. Si c'est des asperges blanches, vous les aurez évidemment épluchées. Vous allez détailler vos blancs de volaille en petits morceaux et vous allez poêler les deux ensemble avec un petit peu d'huile de noisette. Vous allez rajouter les herbes et ensuite vous allez venir bien mélanger tout ça dans le taboulé qui aura gonflé. Vous laissez refroidir et puis vous aurez le croquant de l'asperge, vous aurez le moelleux de la volaille et vous aurez ce petit côté jus d'orange qui va lier le tout. Et je pense que c'est pas inintéressant. Et si vous trouvez dans votre placard quelques noisettes, et bien vous pouvez les rajouter aussi, ça rajoutera de la saveur et du croquant. Il n'y a plus qu'à mettre ça dans un joli petit tupperware et emporter ça au travail demain.
C'est pas mal.
Vous me parlez de noisettes dans votre garde-manger et Olivier, est-ce que vous savez faire le Nutella maison ?
Alors, la pâte de noisette, oui, mais alors le Nutella, non, parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'ingrédients un peu secrets. On arrive à faire des choses qui s'en rapprochent un peu. Mais exactement mais le goût du Nutella,
chose,
c'est compliqué. Hein.
C'est vous qui êtes censé être l'expert gastronomique. Mais je peux vous dire d'expérience, c'est pas moi qui l'ai réalisé, mais quelqu'un que je connais très bien, on peut faire du Nutella chez soi bien meilleur que du Nutella.
Et bah donc c'est pas du Nutella.
Bah donc c'est pas du Nutella.
Oh là, qu'il est bête,
non,
hein.
Ça s'appelle la nocciolata la recette. Mais bon,
voilà.
C'est fabuleux.
Oui. Et vous avez tout mangé.
Ah, j'ai tout bouffé. Bah je vous mets au défi de le faire un de ces jours parce que c'est assez simple finalement. J'avais participé à la conception.
Mais là il est temps d'arrêter maintenant Mathieu le Nutella.
Oh là, vous avez perdu vos points Mathieu Charrier. Alors là,
c'est terrible parce que sur cette petite feuille à côté de moi j'avais mis mon point à Mathieu Charrier aujourd'hui. Il devait avoir mon point normalement.
Il a tout gâché.
Il vient bêtement comme ça une sortie de route dans la dernière épingle à Monaco quoi.
Passons.
Dans le port directement.
Ouais, passons au point.
C'est terrible.
Hein,
ah, oui. Bah, merci Olivier Pouls. Vous aurez permis ce dérapage, Olivier Pouls, qu'on retrouve samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte et tous les jours évidemment. Demain, un nouveau panier repas. Vous avez déjà l'idée de recette ?
Peut-être qu'on va faire une quiche ou une tarte à manger froide.
Ouais, très bien. Une tarte. Très bien.
Charlie essaie de se rattraper en faisant genre il est intéressé. Alors qu'il a passé toute la chronique à dessiner sur sa feuille. J'ai cru qu'il notait la recette.
Moi, j'ai
en fait, il faisait des petits dessins ridicules.
Juste une précision. La quantité de jus d'orange, Olivier.
Il faut l'équivalent, faire moitié jus d'orange, moitié eau. Donc, si on a un verre de semoule, il faut un demi-verre de jus d'orange.
Super, merci. Mais quel acteur ? Mais c'est pas journaliste cinéma qu'il fallait faire, c'était acteur directement. Merci, Olivier Pouls.
Europe 1.
Qui sera élu chroniqueur du jour ? Le résultat va tomber dans une poignée de secondes. Merci à ceux de nos journalistes qui ont les yeux rivés sur les votes de Twitter de ne pas donner d'indice quant au résultat final.
Hein.
Non, le suspense doit être entier.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Le rideau s'apprête à tomber sur cette Commedia dell'arte, qui était la 171e édition de l'équipe est sauvage.
Déjà
qui sera élu chroniqueur du jour ? Frédéric Michel, Anne Le Gall, Jean-Philippe Ballas et Mathieu Charrier retiennent leur souffle.
Nous allons serrer les fesses.
Comme le dit si élégamment le poète. Oui, c'est l'heure du qui tout double. Vous avez chacun 10 secondes pour nous expliquer en quoi votre chronique était la meilleure aujourd'hui. Anne Le Gall.
parce qu'on s'est émerveillé du retour de la nature pendant le confinement. Donc je trouve que c'est pas mal de ne pas être goujat. Pardon.
Oula, elle en perd sa voix.
Dis donc, il faudra peut-être vous faire tester, Anne Le Gall. Hein. Alors oui, vous allez vous faire tester, puis on reviendra vers vous ensuite. Frédéric Michel.
Non, pardon, je termine.
Ah, vous voulez terminer, Ali? Tiens, ah, c'est fou hein, quand même le désir de compétition. Ouais. Alors allez-y.
Donc, retrouvons la forêt avec délicatesse. Entendons cet appel de la forêt.
C'était dommage
de ne pas finir effectivement. Frédéric Michel, pourquoi voter pour vous?
En vous emmenant à travers des films mythiques sur la Côte d'Azur, je vous ai fait voyager bien plus loin que les 100 km autorisés.
Ah,
et ça n'a pas de prix. Hein.
C'est
en toute égalité.
Et puis j'ai quelques photos de vos dernières vacances, Eva et Mathieu, à Saint-Tropez, vous savez.
Ah oui, alors Frédéric
piscine,
Michel, très très bonne chronique.
Le c'était champagne.
Vraiment... Oui, oui. Alors, c'était bien la chronique.
C'était
efficace.
On n'a pas été ridicule.
Un peu le genre, le quiz, c'était vraiment une bonne chose. Hein.
Ouais,
franchement,
ouais.
Frédéric Michel, je vous dis chapeau. Hein. Chapeau, Frédéric Michel. Jean-Philippe Ballas, pourquoi voter pour vous et votre guitare de rocker?
De Kurt Cobain, parce que pendant l'émission, j'ai reçu un texto de Benjamin Biolay qui m'a dit cher JP, oui, il m'appelle JP, si jamais tu n'as aucun point, je reviens sur ma promesse d'interpréter Big Bisou dans
l'émission. Il a dit qu'il faisait.
Après, vous en faites ce que vous voulez.
Une autre forme de chantage. Ouais. Mathieu Charrier.
Je ne ferai pas de chantage, je dirais simplement que je suis le seul à être présent physiquement dans ce studio avec vous. Et que pour renouer le contact humain, pour encourager comme ça le fait de se retrouver ensemble, il faut voter
et
pour
faire
moi.
Circuler le virus pour se taper un deuxième confinement dans quelques semaines. Vous êtes là et pour ça je vous dis bravo. En ce qui me concerne, je devais donc donner mon point à Mathieu Charrier qui a constaté, qui a fait ce constat terrible.
Mais c'était pour vous encourager, Mathieu.
Non, mais qui relève de l'imagination complètement,
oui.
Selon lequel j'aurais pris un certain nombre de kilos et que j'aurais mangé trop de Nutella. C'est évidemment vrai, donc vous n'aurez pas mon point, Mathieu Charrier, pour votre lucidité. Je donne mon point aujourd'hui à Fred Michel. Michel,
voilà,
c'est pour vous un point pour la Côte d'Azur. Eva Rock, votez-vous?
Mathieu Charrier.
Ah, voilà.
Ouais.
Elle n'a pas besoin d'étayer son choix.
Non.
À l'inverse, Eva, elle, a perdu du poids et ça se voit, elle est belle comme jamais.
Bon, très bien. Romain Causer, notre réalisateur, a un droit de vote lui aussi.
Alors Mathieu, je vais voter pour Anne Le Gall et sa promenade en forêt.
J'avais hésité.
Il vote pas, donc nous sommes à un statut d'égalité, je pense.
Ouais.
Bien, ce sont les auditeurs qui vont vous départager.
Alors, ils ont victoire écrasante d'Anne Le Gall.
Victoire d'Anne Le Gall.
Vraiment.
Sur un intitulé qui était
42%.
Faux.
Certainement,
le baby boom de la forêt.
Je pense que les gens ont cru que le thème c'était en fait qu'on allait tous copuler dans fêter en fait le.
Mais vous avez
le rêve des gens, il faut qu'on fasse une réclamation, je vous le dis.
Oh là
vous
là.
Savez quoi, moi ça me fait du bien d'entendre à nouveau la mélodie. Ça me fait beaucoup de bien. Voilà. C'est la vie qui
reprend du confinement.
Les amis, c'était la 171e journée de l'équipée sauvage. Je remercie mes confinés du jour, Eva Rock, Anne Le Gall, Mathieu Charrier, Jean-Philippe Ballas, Frédéric Michel, Olivier Pouls, Romain Causeur et Rémi Duprat en régie. Mes télétravailleurs de l'ombre également, Philippe Amardet, Claire Dutronc, Oriana Lévy et Sébastien Bordenave. L'équipe est sauvage, revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.